Et donc cette indication est importante. Alors, par la suite, le principe va continuer. Au fur et à mesure, il y aura d'autres révélations de la promesse, à travers Abraham déjà, Isaac, Jacob, et c'est de plus en plus explicite. Et de plus en plus que l'identité de Kedusha, qui avait enfoui dans l'identité arabe, se dévoile de plus en plus. Alors la promesse est de plus en plus explicite. Ça vous expliquera pourquoi il y a apparemment ces répétitions qui ne sont pas des répétitions. Voilà, c'est clair jusque-là. C'est une ligne de lecture. Alors maintenant, on revient en arrière pour voir pourquoi Lot et Abraham se sont séparés. Et vous prenez le chapitre 13. Il y a eu un voyage en Égypte. Et au retour de ce voyage en Égypte, j'en parlerai tout à l'heure. Et au retour de ce voyage en Égypte, se produit une scène dont la conclusion est de séparer Lot d'Abraham. Vous prenez à partir du verset 5 du chapitre 13. Voilà, vous dites, à partir du verset 5. Véram le Lot, et même à Lot, et même à Lot, est plein d'humour, et même à Lot, pas seulement à Abraham, mais aussi à Lot, à Roler et Abraham, qui marche avec Abraham, c'est extraordinaire comme expression du récit. On voit Lot marcher à côté d'Abraham. Lui aussi est revenu d'Égypte avec de grandes richesses, du petit troupeau, du grand troupeau et des tentes. Verset 6, c'est un verset terrible. Et la terre ne pouvait pas les porter de résider ensemble. Imagine, la terre entière n'était pas assez grande pour Abraham et Lot à côté. On retrouve un thème analogue avec Caïn et Abel. La terre entière, il y avait deux hommes, Caïn et Abel, et la terre entière n'était pas assez grande pour les deux. Ça veut dire qu'ils pourront mettre en évidence le critère qui fait que ces deux hommes qui se ressemblent tellement ne peuvent pas être ensemble. Quel est le critère qui les fait en réalité très différents malgré la ressemblance? Et je ne pense pas du tout dans la formulation de cette étude à ce qui se passe de notre temps. Mettez ça entre parenthèses, évacuez cela parce que sinon ça vous gênerait. Seulement c'est la même chose. Je reviens au texte. Un jour ça arrivera avec Arès dans le sens Pshat, et la terre, les rêves d'Israël, ne pourra pas les porter ensemble. Ça va arriver juste à la fin du chapitre. Et Kiraya Rechouchamra, parce que leurs possessions étaient nombreuses. Mais imaginez, quelle que soit la richesse d'Abraham et la richesse de l'autre revenant de l'exil, effectivement, il y a beaucoup de juifs qui arrivent riches de l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre n'arrive pas à les porter ensemble? C'est donc il y a un critère de séparation qui est colossal. Et mais c'est à cause des possessions. L'indication est très précise. Tout ce problème, c'est à cause du rechouche. Et nous apprendrons que le critère est d'ordre moral. Le rechouche de Lot est mal acquis, pas moralement, alors que le rechouche d'Abraham est acquis moralement. C'est ça qui fait qu'il faudra qu'ils se séparent. Ça veut dire de capacité d'identité analogue. Ils sont l'un et l'autre capables d'être frères. C'est ça qu'on cherche dans l'histoire d'Abraham. De capacité de civilisation analogue, disons identique, il y a une différence radicale, massive, dans l'ordre de la moralité. J'ai écouté une fois M. Levinas, vous avez entendu parler de M. Levinas, parler un peu de ces thèmes, et il emploie une expression que je cite parce qu'elle est pleine de sens. Mais je ne fais pas mienne parce que je veux dire, vous entendrez aussi pourquoi. Il disait, avec Abraham et Lot, c'est la même différence entre le juif et le sale juif. Si Abraham c'est un juif, Lot c'est un sale juif. Juif mais sale. Donc, c'est une expression que j'aime pas, mais elle est très significative. Ça veut dire que Abraham est le juif authentique, Lot c'est le juif inauthentique. Et Abraham va l'exprimer très rapidement après, c'est la fin du verset 5, en disant, on se ressemble comme des frères. Et là, il faut se séparer. Parce que lorsqu'on voit Abraham, on croit voir Lot, et lorsqu'on voit Lot, on croit voir Abraham. ils se ressemblent tellement que c'est dangereux qu'ils restent ensemble. Pour Abraham. Parce que Lot va se comporter au nom d'Abraham, mais ce n'est pas Abraham qui agit. On va imputer à Abraham la conduite de l'autre. Vous avez compris l'idée qu'il y a là ? Et quel est le critère ? C'est encore une fois l'identité culturelle, religieuse, spirituelle, civilisatrice. C'est des bergers, l'un et l'autre. Qu'est-ce que c'est un berger ? C'est un Kohen. Mais c'est le critère de moralité. Et ça porte sur le réchouche, sur les possessions, on va le voir tout de suite. Bon, moi l'expression que j'emploierais, c'est que si Abraham c'est le frère, Lot c'est le faux frère. Et effectivement, chaque fois qu'il y a un frère, il y a aussi un faux frère. Mais juste, ça me choque. Mais à cause de, pour les raisons que vous comprenez par vous-même. D'ailleurs, j'ai dit à M. Lévinas, c'est la raison pour laquelle je peux vous dire. Mais frère, faux frère, ça, ça y est, c'est clair ? Bon, c'est clair ? Alors, on enchaîne. C'est Halak. Au verset 7. Vayirib ben roé mikne Abraham ou ben roé mikne Lot. Vous voyez, on va nous parler d'une querelle de bergers. Deux manières différentes d'être bergers. Et il y a eu une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Quand il y a une querelle, c'est le premier qu'on cite qui est dans l'authenticité. Et la querelle concerne le deuxième. Effectivement, on apprend après le Midrash que c'est les bergers d'Abraham qui querellaient les bergers de Lot à cause de leur conduite. Et qu'est-ce que ça peut être une querelle de bergers à propos de possession de troupeaux qu'il faut faire paître ? Le Midrash donne la réponse de façon claire. Et après, on retrouve la même scène avec Moïse. C'est que les bergers de Lot faisaient paître leurs troupeaux dans des champs qui ne leur appartenaient pas. En disant, toute la terre est promise à Abraham, donc à Lot, ça nous appartient, c'est à nous. Et donc, on peut faire paître les troupeaux dans des champs des Cananéens. Je vous cite le Midrash à la lettre, hein, et les bergers d'Abraham les querellaient en leur disant, quelle que soit la vérité de la promesse que, en fin de compte, les champs des Cananéens, ça nous appartient, et se rattachait à Verkenaani, Azbaret, vous vous rappelez, et le Cananéen était alors dans le pays, eh bien, tant que c'est pas à nous, c'est pas à nous, du point de vue du réchouche, du point de vue de la possession. Et je crois qu'il y a eu, je vais faire une parenthèse dans l'actualité contemporaine, il y a eu un génie du peuple juif dans le sionisme contemporain de l'ordre de la vertu d'Abraham, le KKL. On a racheté sous par sous une terre qui nous appartient. Je ne sais pas si vous réalisez, hein. Il n'y a aucun peuple au monde où ça s'est passé. Hein. Bon, je crois que vous n'avez pas connu le temps des petits troncs du KKL où on mettait un sou, deux sous, trois sous. C'est avec ça qu'on a acheté Nahariya, Natania. Ashkelon et tout le reste. Et vous voyez ce qui se passe. Alors que des faux frères auraient dit, ah c'est à nous, et bien, on n'a pas besoin d'acheter. Bon, vous avez compris la différence ? Alors, voilà ce que le Midrash explique. Et comme d'habitude, le Midrash va tout de suite à l'essentiel, et son essentiel est éternel. Ça veut dire, les deux c'est des bergers. Les deux vont nous parler de la même loi des bergers. Mais l'un c'est un vrai berger, l'autre c'est un faux berger. Et quel est le critère ? La morale. Voilà, réfléchissez bien à ça, il n'y a rien à ajouter, c'est très clair. Avec la même Torah, si le Dereferet est différent, tout change. Imen Dereferet, c'est une Torah, Imen Torah, une Dereferet. Lequel de Dereferet ? Vous avez compris les mots, les vœux ? Et je crois, au fond, ce qui sépare les hommes de la Torah entre eux, c'est pas tellement le contenu de la Torah, c'est le style du Dereferet. Et le style du Dereferet aboutit au fait que la Torah n'est plus la même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, je pourrais en parler pendant des heures, mais le principe est suffisamment. C'est clair ? Donc, il n'y a plus. Par exemple, vous allez sourire, mais c'est le même problème. Si vous entendez un rabbin dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et un curé dire le même verset, ça n'a pas le même sens. Il va vous répéter le même verset. Mais quand c'est le rabbin qui le dit, c'est de la Torah. Par exemple, Rabbi Akiva, avec l'Algado de la Torah, si c'est un curé qui vous dit ça, ça a tout à fait un autre sens. Ça ne veut pas dire que c'est privé de sens, c'est un autre sens. Donc on se sépare. Parce qu'un curé, ça ressemble tellement à un rabbin qui ressemble à un curé, hein, que c'est dangereux. Bien, alors il faut les séparer. Voilà, je crois qu'on a vu l'essentiel. Vayomer Abraham et Lot, on continue. Et Lot et Abraham dit à Lot, je veux dire l'essentiel des causes directes de la séparation, encore une fois, c'est un critère d'ordre moral. Et on retrouvera ça et avec Ishmaël par rapport à Isaac, et avec Esaü par rapport à Jacob. Le critère de séparation est toujours enseigné dans l'ordre d'une différence dans la moralité. Elle est de notre ordre dans la querelle Ishmaël, Isaac, dans la querelle Jacob, Esaü. Je vous l'indique tout de suite. Ne confondez pas ces deux querelles, mais toujours ça nous est indiqué dans l'ordre d'une différence de conception de la moralité, donc du déréfet, finalement. Du déréfet pris dans le sens plein. C'est-à-dire, Kazma, déréfet, la Torah, Alpaim Shana. L'effort du déréfet a précédé la Torah de 2000 ans. 2000 ans depuis le premier homme jusqu'à Abraham où commence le temps de la Torah. Il a fallu 2000 ans d'effort du déréfet pour que là où le déréfet a réussi, la Torah soit donnée. Et nous sommes dans une situation très difficile après 2000 ans d'exil, où la tradition a été complètement méculquée, démolie, c'est que on se sert de la Torah pour apprendre des référents, alors qu'il faut d'abord avoir des référents pour pouvoir apprendre la Torah. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay. On arrive à l'âge de la Bar Mitzvah pour commencer à être Hayav Mi'Amidvot. Et jusqu'à l'âge de la Bar Mitzvah, c'est Bar Chinur, c'est des référents. Pour l'histoire de l'humanité, c'est la même chose. Mais surtout ce qui est vrai, c'est que, à la suite de l'exil, on a tendance, dans beaucoup de milieux, à adjoindre à la Torah un déréfet étranger à la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors, c'est toutes les catastrophes de la société juive contemporaine. Avec apparemment une même Torah, il y a derrière des déréfets radicalement différents de la Torah. Parce qu'il y a aussi le déréfet de la Torah, qui est le déréfet hébreu. Et alors, c'est ce que les patriarches étudiaient à la yeshiva de Shem et d'Ever. Ils étudiaient le Derech, qui est préalable à la Torah d'Israël. C'est pas n'importe quel Derech. Je vous donne un secret. Ce qui s'amène dans le monde de la Torah avec le Derech des Allemands, avec le Derech des Corses ou des Auvergnats, eh bien, le Derech des Bretons et des Alsaciens, c'est respectable, mais c'est le Derech des Goïms. Chaque goy a son déréfet, okay? Mais il y a un déréfet de la Torah. Celui-là, il est celui, comme on dit en yiddish, de la yiddishkeit. Ça veut dire. Bien fait. Que j'ai une fois expliqué ça comme ça. Kadma déréfet la Torah, alpaim shana. Kadma déréfet Israël la Torah. La preuve, c'est que la première chose que Dieu dit à Abraham, déréfet Israël, en direction d'Israël, après je te donne une Torah. Okay? Mais c'est clair, mais je vais vous citer un verset direct. Dans la parasha de Vaïslar, vous l'apprendrez dans le livre de Shmot, « Ve'onachram Elokim derecheret pelishtim ki karoum » Alors le pshat, c'est que Dieu ne les a pas conduits par le chemin des Philistins, parce que c'est un chemin trop près, mais au niveau du Midrash, on peut le lire comme ça. Et Dieu n'a pas voulu leur donner le derecheret des Pélistim, c'est clair. Qui, Karobhu, car lui, Dieu est près de Saint proche d'Israël. Mais vous lirez ça dans le Midrash, okay? Qui, Karobhu. Bon, vous avez compris l'idée. Il y a aussi le Derecheret Pelishtim, okay? C'est celui qu'ont choisi les Juifs pro-philistins. Vous savez comment on dit ça aujourd'hui, okay? Ils ont un Derecheret très particulier. Et alors, lorsqu'il est arrivé cela, que la séparation est décrétée pour cause de moralité. Et vous voyez, ce qui a empêché que la révélation soit claire, c'était l'immoralité. Alors l'immoralité peut être insidieuse, subreptrice, je ne sais plus comment dire en français, elle peut être...
Subreptrice.
Non, ça elle est toujours, mais quand elle se dévoile. Elle peut être hypocrite, elle peut être jésuite, vous voyez ce que je veux dire, noyée dans de l'eau bénite, mais elle est toujours là. Et alors, quand elle se dévoile, alors il faut se séparer. C'est ce que dit Abraham au verset 8. Vayomer Abraham et Lot, Abraham dit à Lot, Al na tehi meriba, qu'il n'y ait pas querelle. Et vous comparez le mot de Mériba avec le mot de Rib. Rib et Mériba. Un sujet pour lui-même. Beni ou Benra, entre moi et toi, ou Ben Roaï ou Ben Roecha, entre mes bergers et tes bergers, qui anachim achim anachim. Car nous sommes des hommes frères. Or, nous savions qu'ils n'étaient pas frères, puisqu'un était le neveu de l'autre. Donc le Midrash indique, nous nous ressemblons comme des frères. Alors, ils ne se séparent pas. C'est clair? Mais il reste très profondément que cette capacité d'être frère, ils les ont les deux. Celle de Lot va rentrer dans la clandestinité de l'impureté de Sodome et Gomorre, Moab, Amon, c'est qu'à la fin des temps qu'elle reviendra avec Ruth. Vous avez compris? Là, j'ajoute un autre sujet. Ça veut dire, Lot n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quel personnage. C'est un personnage qu'Abraham va protéger de loin. Mais, et tant qu'il est là, la révélation s'arrête. Il empêche la Kdusha. Mais il y a une Kdusha enfouie, comment dire, clandestine, occulte, qui un jour se révélera. Ça, c'est l'histoire de Ruth, qui revient de la descendance de Lot. Et quand nous aurons le temps, on étudiera cela pour lui-même. Ce sujet pour lui-même, pourquoi la tradition va mettre en évidence le fait que quand Ruth revient, c'est pas n'importe quel Guioret. C'est pas n'importe quel membre des nations qui vient en Israël, Guioret. Elle sera l'ancêtre du Mashiach. Et on sait qu'à travers David. Mais c'est le thème qui est important. Qu'est-ce qu'il y a chez Ruth qui fait qu'elle n'est pas n'importe quel Guioret? C'est son histoire qu'on chante le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah, et etc. Alors c'est un sujet pour lui-même. Je ne voudrais pas en parler maintenant, parce que je voudrais finir ce sujet-là, de la séparation entre Abraham et l'autre. Je voulais indiquer cette dimension. Et on le voit tout de suite. Verset 9. Voilà ce que dit Abraham à l'autre. Alors, « Kol ha'aretz lefanecha ». Il ne dit pas « ha'aretz lefanecha ». Il dit « kol ha'aretz ». Ça veut dire, même cette partie de la terre qui n'est pas encore dans l'objet de la promesse. Puisque il y a Eretz Knaan et puis il y a Kol Haaretz. Comparez les deux expressions, mais j'enchaîne. Iparedna me'alai, sépare-toi de moi. Imasemol ve'emina, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ve'imayamin ve'asmiyina, et si tu vas à droite, je vais à gauche. Ça signifie s'il. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être autrement. Que si un va à droite, l'autre va à gauche, si un va à gauche, l'autre va à droite. C'est clair. Et on verra que l'autre a préféré la Sodome et Gomorre. Mais prenez Rachid, c'est Rachid très important. Rachid dit ceci. Et vous y êtes, je vous dis où c'est. Sur le verset 9 dans Rachid. J'ai pas ma loupe, mais est-ce que c'est une loupe? Oui. Une minute. Alors, Bechol Asher Teshev, l'autre Afrek Mimer. Voilà ce que dit Rachid. En lui disant, si tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche. Partout où tu résideras, je ne m'éloignerai pas de toi. J'ajouterai, je ne m'éloignerai pas trop. Ça veut dire, si tu vas à gauche, j'irai à la droite de ta gauche. Et si tu vas à droite, j'irai à la gauche de ta droite. C'est-à-dire, c'est jamais trop loin. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et lecha le magen ou la ezer. Je t'appuierai en protection et en aide. Mais sauf d'abord, et en fin de compte, utrachlo, l'autre a eu besoin d'Abraham, shenema, vaishma Abraham, kinishba achiv, lorsqu'Abraham a appris que l'autre était fait prisonnier dans la guerre des rois, où Abraham est intervenu pour sauver Lot. Et on peut se demander, mais pourquoi il va se mettre en danger pour sauver Lot, alors qu'on vient d'apprendre que Lot c'est un rachat? Et je vous donne la réponse du Shla. Je veux dire, là où c'est le plus explicite, c'est dans l'enseignement du Shla. Il y a dans l'impureté de Lot quelque chose d'une sainteté dévoyée, et qu'il faut protéger pour la sauver un jour. Mais en attendant que ce temps de maturité de la sainteté cachée ne se dévoile, il faut le séparer. Parce que l'autre, ça peut être un tzaddik, mais un tzaddik de Sodome et Gomorre. Okay, ça peut être un tzaddik de Sodome et Gomorre. Hein. Imaginez Abraham lui dit, va choisir où tu veux aller, il faut se séparer. Alors le verset suivant, on va le lire. Alors Lot voit Sodome et Gomorre, Pompéi. Quel? Il dit, ben, c'est là-bas que je vais être à main. Donc, qu'est-ce que je dis? Hein? Ah, je croyais que tu voulais poser une question. Alors là, il y a toute une problématique. Hein? C'est que Lot va s'installer comme juge, comme Tanikhacham à Sodome et Gomorre. Imaginez la Geshiva de Sodome et Gomorre. Okay? Bon, alors le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut être Mimatika Arabim, comment dire ça en français, aller porter le message c'est à Sodome et Gomorre, ou est-ce qu'il aime bien Sodome et Gomorre? Ouais, c'est pas difficile de le dire. Il y a un enseignement des Chassidim qui dit ceci. Si tu vois quelqu'un tomber dans la boue, dans un puits, jette-toi dans la boue pour le sauver, mais attache-toi en haut. Hein? Parce que sinon, on ne saura pas qu'est-ce qu'il a voulu. Le sauver ou aller dans la boue avec lui. c'est clair. Alors, si on plaidait pour l'autre en disant, bon, c'est pas difficile d'être tzaddik à Jérusalem, tzaddik à Sodome et Gomorre, ça c'est difficile. À Brooklyn, je ne sais pas où. Là, au moins, ça a un mérite. Oui, mais de quoi s'agit-il vraiment? Bon, je vais l'ajouter. Alors, on revient en mode. Non, il suffit de dire Pompéi. Ça suffit. Imaginez la Sainte Yeshiva de Pompéi. Bon. Alors, vous voyez que nous suivons deux récits parallèles et qui s'entremêlent, et que nous devons lire à la fois. C'est-à-dire, dans le récit de Lot lui-même, deux niveaux. Ce qui est caché, cette identité Aram, qui n'arrive pas à devenir Abraham, mais qui cependant est là et nous accompagne jusqu'à ce que on se rejoigne. Alors il y a une rivalité qui s'est installée à partir de Lot, qui est celle de la descendance des deux filles de Lot, Ammon et Moab. Et cette rivalité d'Ammon et Moab, jusqu'à aujourd'hui, accompagne l'histoire d'Israël. On est plus familier à celle d'Ishmaël, à celle d'Esav, et je ne sais pas si on a vu déjà ce schéma, il y en a six qui nous accompagnent comme ça, plus un septième, Amalek, qui se met à la tête, mais celle de Lot, elle est double, Ammon et Moab, elle travaille. Vous allez me dire, qui c'est maintenant Ammon et Moab? Bon, du point de vue de la filiation ethnique, on est dans le noir. Et comme si on demandait qui est Amalek. Il y a tellement de réponses que... c'est surtout au niveau de la typologie que c'est clair. Quelle est la fonction d'Amalek? Alors quand cette fonction joue, on sait où travaille Amalek. Il y a deux identités où c'est vraiment diagnosticable. Ishmaël, c'est Ishmaël, Esav, c'est Esav. C'est clair. Maintenant, Moab, Ammon, et les autres, je vous donnais tout à l'heure le schéma global, eh bien, il faut les identifier par la fonction qu'ils jouent dans les rivalités contre Israël. Pour ma part, j'ai aucune source à vous citer, hein, c'est vraiment une hypothèse hypothétique. J'ai toujours été frappé par le fait que la capitale de la Jordanie, c'est Rabat Ammon. En fait, c'est là-bas que ça travaille. Alors, il est évident que, du point de vue de Israël, le problème Lot Abraham, la rivalité la plus fondamentale, c'est avec la Jordanie. Alors, il est possible, c'est là-bas que ça travaille. Okay? Alors, vous voyez, à la limite, dans une réunion du corps consulaire à l'Élysée le 1er janvier, okay? Eh bien, le roi de France ne verrait pas de différence entre l'ambassadeur de Jordanie et l'ambassadeur d'Israël, ça se ressemble. On mange les mêmes pitotes et le même fait d'affaire. Okay? Ça se ressemble.
C'est souvent un chêne.
Oui. Eh bien, et pourtant, vous voyez comment ça joue? Est-ce que c'est clair? Vu de loin, un Jordanien, un Syrien, un Libanais, un Israélien, ça se ressemble par rapport à un Goy. Mais en fait, à la limite, ça n'a rien à voir. C'est le problème, Lot et Abraham. Voilà, je voulais vous donner une indication en passant. Et on continue un peu, paraphrase, parce que j'ai plus le temps de lire le texte, oh, il reste 2 minutes. Il y a une indication, je vais prendre 2 minutes, hein, une indication extrêmement importante dans la descendance de Lot, dans ce récit de la caricature de la conduite de Lot par rapport à celle d'Abraham et dans l'impureté. Tout ce que fait Abraham, Lot le fait, mais dans l'impureté. La grande vertu d'Abraham, c'est l'hospitalité. Eh bien, l'hôte, c'est l'hospitalité, mais dans l'impureté absolue. Reprenez la scène de l'hospitalité de l'hôte, il robe ses filles. C'est l'hospitalité. Et oui, c'est la même chose, mais dans la Touma. Et ensuite, la Torah a tenu à nous raconter ce qui se passe entre l'hôte et ses filles. Et là, il y a un récit, je n'oserais pas dire tragique, mais disons tragique, dramatique. Les filles de l'hôte, apparemment, d'après le Midrash, on sait qu'une est sincère et l'autre n'est pas sincère, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, croient que l'humanité est perdue. Il y a une catastrophe atomique, Sodome a été atomisée. Donc, alors, on croit que le monde a disparu. Il ne reste de l'humanité que Lot et ses deux filles. Il faut sauver l'humanité. À une tentative messianique d'engendrer l'humanité future. Mais dans l'impureté absolue, un inceste entre les filles et le père. Mais qu'est-ce qu'il y a comme intention profonde? Le salut de l'humanité. Le salut messianique de l'humanité. Ça veut dire, dans cette impureté absolue, continue à jouer cette ombre de la lumière d'Abraham. L'identité messianique se cherche dans la lumière, dans les lignées d'Abraham, et dans l'obscurité, dans les lignées de Lot. Vous voyez ce parallèle, hein? Donc, voilà ce que je voulais vous indiquer. Donc, c'est un personnage important, et la rivalité qu'il installe est importante, parce qu'il y a sosie à la surface, ça ressemble comme des frères, dit le texte, mais le critère de séparation est absolu. C'est la moralité. Alors, je crois que c'est une grande leçon qui apparaît là. La même Torah, avec une moralité pure, ou avec une moralité impure, c'est la séparation entre l'autre et l'autre. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'est l'essentiel. Est-ce que c'est clair? Non. Bien, s'il y a une question, il y a encore une minute. Quel âge?
Et par rapport à l'indicat, il y avait votre rencontre avec le Tanit Rabam concernant la discussion entre Moshe Rabbeinu et Yétro, les grandes missions. J'aimerais savoir s'il y a une séparation à la finale ou une rencontre.
Je ne vois plus à quelle anecdote tu fais allusion, laquelle.
Il y a un Moshe qui est trop, et que Yétro lui a posé deux conditions.
Oui.
Je voudrais savoir ce qu'il y a entre vous, par un manqué de savoir-vivre.
Il m'a supplié de mettre ça par écrit. Alors je dis que j'avais pas le temps. Non, mais je crois que tu fais partie de l'autre anecdote, hein, les terres, l'hôpital. Alors j'ai pas dit qu'il a fait de mauvaises affaires. Donc, non, ce qui me frappe, c'est à quel point les thèmes d'enseignement de la Torah, comme le Midrash les formules, concernent l'existence réelle de ce que c'est que l'histoire de notre peuple comme elle est, purement. Voilà, c'est clair? C'est ce lien que je voudrais vous faire ressentir.
À propos du verset, la tradition en définit la droite et la gauche pour voir le nord et le sud. Pourquoi la droite aussi?
C'était à cause du choix géographique qu'il y avait à faire. D'ailleurs, en hébreu, on dit. Quels sont les mots que dit Ankelos? J'ai pas le texte sous les yeux.
Oui.
Parce que Yama, qui veut dire la droite, c'est le sud. Et donc la gauche, c'est le nord. C'est du point de vue de la situation géographique. À ce moment-là, dedans, il y a un problème encore que je n'ai pas touché. C'est qu'Abraham donne le choix à Lot. Et si Lot avait choisi Jérusalem, Abraham serait là, Sodome et Gomorrhe, point d'interrogation. C'est un problème. Et alors, il y a d'autres connotations de sens. Aller à droite, ça veut dire la Koula. Aller à gauche, ça veut dire la Humra. C'est d'autres niveaux de sens.
Parce qu'il regarde vers le Mizra. Quand il regarde vers le Mizra, il faut aller à droite.
Non. Mais ça, c'est la position géographique. Mais. L'enseignement de Rachid est important. Ça veut dire, j'irai à la droite de ta gauche, à la gauche de ta droite. Comme si ces deux destins, bien que de façon cachée, occultée, sont liés quand même. Okay? Comme disait M. Lévin, les Juifs et les Saint-Juifs. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, doit l'aimer. Retenez ce que j'ai dit. Je veux dire. Je vais raconter l'histoire d'un rabbin qui avait un ennemi qui lui faisait du tort. Vous savez, les jalousies, ça existe. C'est dans les Maasiot, c'est pour les Maasiot qu'on raconte ça. Un jour, ça a bien décidé, il faut que j'en sorte. Je vais essayer. Il y a écrit, tu aimeras ton prochain compteur. Je vais l'aimer, on va voir. Alors, il s'est mis à l'aimer, c'est pas facile. Le lendemain, il a téléphoné pour demander un rendez-vous. Allez, on fait la paix, on fait pas la paix. C'est-à-dire, ça marche. Bon, vous allez me dire, c'est utopie, essayez. Si vous avez un ennemi, aimez-le, vous allez mourir vachement. Ça marche. Alors, c'est ça qui est.
Par rapport au délire ou l'équipe, on peut surtout, on va dire ça à l'opposé du rachat, qu'on ne doit pas accepter un verre d'eau de la part
d'un Écoute, chaque cas doit s'étudier à la Khalemas, les gouffres. Chaque cas doit s'étudier pour lui-même. C'est le genre de problème où c'est difficile de donner une règle générale. Parce que si vous vous en tenez à la règle générale, quelqu'un qui est connu comme rachat, qui est connu comme orgueilleux, pas un verre d'eau, il va arriver des catastrophes. Parce que c'est l'analyse et le diagnostic de qui ? Est-ce que c'est clair ? Alors, par exemple, si vous avez ce principe, quelqu'un qui ne pratique pas Shabbat, c'est un rachard. Alors, pas un verre d'eau. Et vous allez arriver à des catastrophes. Chaque cas doit s'étudier. Non, je dis vous, parce que ça posait la question, sinon je te réduis-tu. Mais chaque cas doit s'étudier pour lui-même. Il y a un principe, mipene tikkun haolam, mipene kvod habriyot. On sait que la règle théorique comme ça, c'est interdit. Mais peut-être qu'il faut faire le contraire. Donc chacun peut étudier. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée, puis on va s'arrêter là. Quelques années après la guerre, on a eu une réunion d'anciens combattants. Vous savez ce que c'est que les anciens combattants qui se retrouvent après la guerre. Et alors, les rescapés du régiment. Et alors, j'étais donc invité, les juifs rescapés, dans la banlieue parisienne, dans une maison juive, plus ou moins kacha, shomer mitzvot. Mais ils avaient pris la précaution de faire un kacher comme c'est pas possible. Et alors, grâce au fait que la fille de la maison était dans une école orthodoxe, et que c'est elle qui s'est chargée de tout, donc je pouvais être invité sans problème. Vous savez, ces juifs qui sont pratiquants comme ça, c'est clair. Il y en a beaucoup dans la banlieue parisienne, et riches en plus. Et alors, je vais raconter une histoire, mais je voudrais que vous la compreniez vraiment en détail. Parce que sinon, vous allez me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Et alors, au moment où on était à table, la maître de la maison apporte la bouteille de vin et le tire-bouchon en me demandant d'ouvrir la bouteille. Et j'ai dit, pourquoi, et toi, tu n'ouvres pas la bouteille ? Elle m'a dit, ah non, ma fille a dit qu'il n'y a que le rabbin qui ouvre la bouteille, parce que c'est pas sûr que tu es chômeur Shabbat. Et il m'a dit ça avec une telle mine sur la figure que je sentais le drame qu'il avait derrière. Sa fille, qu'il a envoyée dans une école juive, est en train de lui faire honte devant l'invité du régiment que 4 ans après, elle est escapée. Vous voyez le drame. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai pris la bouteille et j'ai dit au juif, si tu l'ouvres pas toi, je ne bois pas. Alors, fou de joie, il ouvre la bouteille et il me dit, maintenant, je te jure, je serai chômeur Shabbat comme il faut. Voilà. Tu vois le... Et c'est vrai, il a tenu le rôle. Bon, après, il a fallu que je console la fille qui lui explique d'où vient que quelqu'un qui est pas chômeur Shabbat va ouvrir la bouteille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'elle lui a dit ce qu'elle avait entendu à l'école. On ne doit pas boire le vin des idolâtres. Et un juif qui est pas chômeur Shabbat est considéré comme un idolâtre. Alors imaginez ce pauvre juif nord-africain qui s'est pris pour un idolâtre parce que sa fille lui a dit qu'il était idolâtre. Vous avez compris le drame. Donc, il faut marcher sur des œufs dans ces cas-là. Des œufs de Pâques. C'est chaque cas doit s'étudier pour nous. Bien. Alors, on s'arrête là. On se verra si Dieu veut la semaine prochaine.
L'encombrement du machin est passé par là, passé par l'autre source pour aller dans la réussite du projet, dans
la tête,
c'est long.
D'accord, mais quelle heure? Ils font voir ça tout de suite. Alors, tu sais quoi, tu m'accompagnes au bureau et on se soit à 2 minutes au bureau.
Dimanche, vous devez bien.
Je travaille en fait, donc là, ce serait pour l'heure.